l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Millau, 106.5.
Bienvenue, Présence Midi, en direct jusqu'à 13h avec toute l'équipe. Nous sommes ravis de vous retrouver dans l'équipe aujourd'hui. Je fais l'appel à Anne-Rose Jankovic, bonjour.
Présente, bonjour Gilles Bardi, bonjour à tous.
Vous êtes très heureuse de retrouver les auditeurs.
Oh bah oui, toujours heureuse d'être avec les auditeurs via les ondes de Radio Présence. C'est un plaisir, chaque mardi, chaque jeudi, quelle joie.
Si vous êtes avec nous, c'est pour évoquer l'agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes dans un instant. Un agenda, on va le voir, assez chargé. Puis dans cet agenda, on parlera de l'événement qui approche le pèlerinage de la Bigorre à Lourdes du 16 au 21 octobre. Le programme est d'ores et déjà établi, on le détaillera dans quelques instants.
Oui, et nous ferons le focus aujourd'hui sur les rendez-vous qui sont pour tous, ouverts à tous, sans inscription et gratuits. Il y en a quelques-uns.
Coup de projecteur également avec vous et avec vos invités sur l'Escale, cet accueil de jour du Secours catholique à Tarbes.
Oui, l'Escale, c'est l'accueil de jour effectivement qui a été complètement rénové. Il se situe en plein cœur de Tarbes. Il a été rénové et inauguré vendredi dernier, le 19 septembre. J'y étais avec mon petit micro bleu de Radio Présence et vous entendrez plusieurs personnes qui expliqueront d'abord ce qui se passe, ce que nous pouvons vivre et faire à l'Escale, et puis aussi des témoignages de bénévoles.
Dans cette émission également, nous retournerons au 5e siècle avec Laurent de l'Office.
Je ne suis pas sûre de vouloir aller au 5e siècle.
Vous allez voir, ça va être formidable.
Bon,
on parlera des cagots.
Ah oui, je connais.
Vous connaissez.
Un petit peu.
Mais vous allez quand même écouter la chronique.
Oui, parce que c'est toujours intéressant de comprendre l'histoire de notre cher Bigorre.
Voilà, ça sera aux alentours de 12h50. Mais dans un instant, l'agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, juste après la Ville de Lumière, pour débuter cette émission.
Comme un diamant qui se pose aux branches de mes doigts, tu brillais chaque nuit devant moi. Ville de lumière, quand il fait de toi
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Direction le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Rebonjour Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
On va détailler cet agenda qui est très chargé. On parlera à la fin de cet agenda du pèlerinage de la Bigorre. La date approche, c'est du 16 au 21 octobre prochain. Mais pour débuter, on va commencer avec l'action catholique des enfants, la fête de la bienvenue.
Exactement, vivons nos rêves ensemble. C'est le thème de cette fête de bienvenue qui a lieu dimanche 28 septembre dans les jardins de l'église Saint-Antoine de boulevard Pierre-Renaudet. À terme, c'est vraiment le lancement de l'année pour ce mouvement d'action catholique des enfants, avec un programme bien chargé. Ça commence à 11h par un temps d'accueil vraiment festif, joyeux, parce que c'est comme ça que ça se passe avec l'action catholique des enfants. Et puis à 11h30, il y aura un rassemblement en chanson, suivi d'un apéritif, un pique-nique aussi apporté par chacun. Et à partir de 13h30, un grand jeu, embarque avec nous. Voilà, ce sera le sujet, l'objectif de ce grand jeu. Et puis à 15h30, un temps de partage autour d'un texte avant le goûter, une tombola, un tirage au sort de la tombola. Et puis à 17h, ce sera la clôture de cette journée. Donc je rappelle, l'action catholique des enfants redémarre une année de rencontres, de joie. Ça commence ce dimanche 28 septembre à l'église Saint-Antoine à Tarbes. Vivons nos rêves ensemble. C'est ouvert à tous, évidemment, puisque tout le monde a le droit de rêver.
Les soirées louanges Ryzen reprennent à Tarbes.
Ah oui, ça c'est vraiment le rendez-vous que nous attendons chaque année et chaque mois, puisque une fois par mois nous avons rendez-vous pour ce temps de louange en l'église Saint-Vincent de Paul. C'est dans le quartier Lobadère à Tarbes, à partir de 20h30. Ce temps de louange, toujours avec cet objectif, de nous convaincre et de dire autour de nous que oui, Jésus sauve. C'est ce temps de louange Ryzen. Rendez-vous ce samedi 27 novembre à 20h30 en l'église Saint-Vincent de Paul.
En ce mois de septembre, les activités reprennent. C'est notamment le cas de la fraternité Saint-Laurent qui propose une rencontre ce 27 septembre.
Oui, la fraternité Saint-Laurent que nous entendons de temps en temps, qui donne son témoignage sur l'antenne de Radio Présence de temps en temps. Je vous rappelle que c'est vraiment une fraternité qui a pour objectif de se rassembler. C'est vraiment un lieu de joie, de fraternité. C'est un modèle de diaconie aussi. Et les rencontres de la fraternité Saint-Laurent redémarrent effectivement avec déjà 3 rencontres qui sont ouvertes à tous et programmée. La première, c'est ce samedi 27 septembre au Centre Assomption à partir de 9h. Toujours, ça c'est un peu la marque de fabrique, le café, l'accueil café convivial. Et puis il y aura un temps de partage de la parole avant la célébration de la messe à 11h30, le pique-nique et puis voilà, des occasions d'échanger, de partager autour de la parole, mais aussi s'encourager les uns et les autres. Information donc auprès de Sophie au 06 25 30 34 65, 06 25 30 34 65. C'est vraiment des rencontres ouvertes à tous, donc 27 septembre à partir de 9h au Centre Assomption pour rencontrer, découvrir ou redécouvrir la fraternité Saint-Laurent.
On poursuit cet agenda avec la fête de la Saint-Michel. C'est ce week-end, ça va se passer du côté de Rieulès, avec un week-end qui est chargé pour l'évêque du diocèse de Tarbes-et-Lourdes,
oui,
Monseigneur Mika.
Effectivement, notre évêque, Monseigneur Jean-Marc Mika, a un emploi du temps bien chargé ce dimanche 28 septembre, puisqu'il aura la grande joie de fêter la fête patronale du petit village de Rieulès. C'est pas très loin de Lourdes, ce sera l'occasion pour les habitants de fêter Saint-Michel avec leur évêque, lors notamment de la messe qui sera célébrée à 11h en cette église de Rieulès, qui a fait l'objet, si je ne me trompe pas, mais je fais un appel à témoins, de travaux grâce à la mobilisation des habitants qui ont voulu prendre soin de l'église de leur village. Et puis dimanche après-midi, Monseigneur Mika sera, c'est pas dans les Hautes-Pyrénées, du côté de Martres-Tolosane. Il célébrera là la messe de rentrée du mouvement des guides et scouts d'Europe à 15h. Notamment les guides et scouts d'Europe de Tarbes qui seront notamment avec les guides et scouts d'Europe de Haute-Rive, et ils se retrouvent à Martres-Tolosane pour une journée de le lancement aussi, c'est le dimanche 28 septembre, c'est le lancement de l'année pour ce mouvement, et avec cette messe qui sera célébrée par Monseigneur Mika à 15h et qui sera le point d'orgue de cette journée.
Voilà, on rappelle que le petit village de Royelès, c'est à côté de Saint-Pé-de-Bigorre, hein, à quelques minutes à peine
exactement,
de Lourdes, le long
tout
du gave de Pau. On va parler de mardi prochain. Pourquoi mardi prochain ? Eh bien, parce que c'est la messe de rentrée de l'enseignement catholique.
Oui, tout à fait. La messe de rentrée de l'enseignement catholique du diocèse de Tarbes et Lourdes, ça a lieu le mardi 30 septembre, donc dans une semaine, à 17h30, dans la chapelle de la Maison Saint-Paul à Tarbes, la maison diocésaine. Au cours de cette messe, eh bien, un chef d'établissement sera envoyé en mission. Il s'agit de Madame Isabelle Grieg pour l'école Sainte-Thérèse à Tarbes. Voilà, on indique que cette célébration, elle est ouverte à tous, bien sûr, les chefs d'établissement, les enseignants, mais vraiment toutes les personnes qui veulent les encourager dans leur mission et puis peut-être aussi les remercier de leur engagement et de leur mission. Donc cette messe de rentrée de l'enseignement catholique, mardi 30 septembre à 17h30 en la chapelle de la Maison Saint-Paul à Tarbes.
On va parler maintenant de l'événement pour ce mois d'octobre pour le diocèse de Tarbes et Lourdes, et c'est bien évidemment le pèlerinage de la Bigorre à Lourdes. Cette année, c'est du 16 au 21 octobre. Ça y est, le programme définitif a été établi. Je l'ai même entre les mains avec ce petit flyer.
Voilà, ce petit flyer qui... Alors, vous êtes le premier à l'avoir.
Ben, c'est pour ça que je le dis.
Il va être distribué dans toutes les paroisses du diocèse et à la Maison Saint-Paul, voilà, à partir d'aujourd'hui. Et puis, cette semaine notamment, avec le bulletin diocésain d'automne qui arrive dans quelques jours. Alors, aujourd'hui, je vous propose de faire un focus sur les rendez-vous qui seront au sanctuaire de Lourdes pendant ce pèlerinage, mais ces rendez-vous qui sont vraiment ouverts à tous, pour tous, sans inscription, gratuits, puisque vous le savez, on l'a évoqué la semaine dernière, puis nous en reparlerons. Le jeudi 16 octobre, c'est vraiment la journée réservée pour les écoles catholiques, et puis ensuite, il y a voilà, un programme fait pour les collégiens, les lycéens. Voilà. Aujourd'hui, je vous parle des rendez-vous qui sont pour tous. Ça commence le samedi 18 octobre à partir de 9h dans la salle Jean 23. C'est au-dessus du centre information au sanctuaire de Lourdes. Il y aura un accueil convivial, un temps de rencontre et puis ensuite une journée accompagnée par la Fraternité Saint-Laurent de Lourdes, dont je vous parlais il y a quelques instants. Sur ce thème, l'espérance ne déçoit pas. Il y aura de 10h à midi, donc ce samedi 18 octobre, un partage de la parole de Dieu autour de ce thème de l'espérance avec la Fraternité Saint-Laurent. C'est vraiment ouvert à tous. Il s'agit vraiment de prendre son temps pour se plonger dans cette parole de Dieu et puis échanger à partir de cette parole de Dieu. Ensuite, le pique-nique, toujours tiré du sac et toujours convivial. Et à partir de 14h, démarche de pèlerinage dans le sanctuaire ou bien chemin du jubilé en groupe. Ce sera au choix. À 16h30, ce samedi 18 octobre, vous aurez rendez-vous pour la messe d'ouverture du pèlerinage de la Bigorre à Lourdes en la basilique du Rosaire. Et ce sera l'occasion d'y retrouver notamment les pèlerins malades.
Voilà, ça c'est pour la journée du samedi à 18 octobre. Le pèlerinage se poursuit le lendemain, le dimanche 19 octobre, avec le Festival de l'Espérance.
Ah oui, alors ça va être la fête, hein, le Festival de l'Espérance. À partir de 10h, le dimanche 19 octobre, accueil en l'église Sainte-Bernadette, toujours bien sûr dans le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. À 10h30, nous aurons le lancement officiel de la journée avec notre évêque, Monseigneur Mika. Ce sera une prise de parole importante de notre évêque. Comme chaque année, on a cette habitude maintenant que notre évêque nous parle lors de ce pèlerinage diocésain. Là, on pourra entendre notamment quelques-unes de ses orientations pastorales pour la vie de notre diocèse. Donc vraiment un temps de prise de parole de notre évêque à ne pas manquer, 10h30 le 19 octobre. Ensuite, nous irons prier l'Angélus à la grotte et puis ensuite dans la prairie, il y aura un pique-nique festif. Ce sera en cas de pluie dans l'église Sainte-Bernadette, mais il fera beau, j'en suis sûre. Donc un pique-nique festif avec cette particularité, la farandole des desserts. Chacun doit apporter un dessert à partager. On peut imaginer que nous aurons des tourtes aux myrtilles, je ne sais pas, des choses comme ça. Et puis une tasse pour le café. L'idée, vous l'avez compris Gilles, hein, c'est que, la convivialité, on échange et vous venez de quelle paroisse, c'est de quelle vallée, etc. La Bigorre et les quatre vallées se retrouvent, il faut un petit peu échanger.
La tarte aux myrtilles, c'est une commande que vous passez aux auditeurs.
Pourquoi pas, pourquoi pas.
Voilà.
Et puis l'après-midi se déroulera avec notamment des jeux et des ateliers pour tous dans la prairie. Vraiment, le mot d'ordre, c'est de ce Festival de l'Espérance, c'est de trouver l'espérance dans la joie de la rencontre. Hein. Vous savez que quand on fait des belles rencontres comme ça, c'est toujours source d'espérance. Ce sera l'objectif de ce temps avant d'aller prier le chapelet à la grotte à 15h30 comme chaque jour et à 16h20 la messe en l'église Sainte-Bernadette pour tous les diocésains.
Voilà pour la journée du 19 octobre pour ce Festival de l'Espérance. Le pèlerinage se poursuivra avec le mardi 21 octobre, la messe d'envoi à la grotte. Hein.
Oui, effectivement. Alors le lundi, il y aura toujours les pèlerins malades accompagnés par l'hospitalité de Bigorre et les lycéens qui sont au service des personnes malades, qui mèneront une journée de pèlerinage, qui continueront leur démarche de pèlerin d'espérance. Et puis le mardi 21 octobre, ce sera la clôture du pèlerinage diocésain avec à 10h la messe d'envoi qui aura lieu à la grotte. La messe comme chaque jour à 10h à la grotte, ce sera la clôture de notre pèlerinage diocésain édition 2025.
C'est ça, cette édition 2025. À noter donc, vous l'avez dit, que la messe diocésaine cette année, c'est le dimanche. Hein,
c'est le 16h20. Dimanche. Après-midi à 16h20, exactement.
Alors si les familles nous écoutent, eh bien il faut qu'elles soient rassurées puisque le pèlerinage de la Bigorre, ça tombe pendant les vacances scolaires. C'est le tout début des vacances.
Exactement, voilà. C'est le tout début des vacances scolaires pour que vous puissiez faire participer vos adolescents, qu'ils soient collégiens ou lycéens, et puis faire participer aussi vos enfants puisque nous en reparlerons dans quelques jours. Mais le service diocésain de la catéchèse organise comme chaque année la journée du dimanche 19 octobre, vraiment un programme pour les enfants très adapté selon les tranches d'âge. Nous en reparlerons avec le service diocésain de la catéchèse dans quelques jours.
Et si on souhaite se renseigner, bien toutes les informations sont disponibles sur le site internet du diocèse.
catholique65.fr, il y a une page dédiée au pèlerinage diocésain et puis les informations vont circuler aussi via le bulletin diocésain qui sort dans quelques jours et via l'application Au Clocher et bien sûr sur Radio Présence.
Exactement, Radio Présence qui va se mobiliser avec de nombreuses émissions avant le pèlerinage, durant le pèlerinage et après le pèlerinage.
Ah oui, parce que c'est toujours bien aussi de faire un retour sur événement.
Avec Marie, pèlerin d'espérance, c'est le thème donc du pèlerinage de la Bigorre à Lourdes. On redonne une dernière fois les dates du 16 au 21 octobre. Renseignez-vous sur catholique65.fr. Voilà pour l'agenda du diocèse de Tarbes-Lourdes. Merci Anne-Rose Jankovic.
Merci à vous.
La suite de cette émission, c'est avec vous. Vous étiez à Tarbes il y a quelques jours.
Oui, puisque c'était l'inauguration du centre de jour du Secours catholique. Le Secours catholique qui a cet accueil au 87 rue Masset à Tarbes. C'est vraiment en plein centre-ville, juste à côté du jardin Masset. Ce lieu d'accueil a fait l'objet d'une vaste rénovation depuis 2 ans et puis a été inauguré ce vendredi 19 septembre en présence de Monsieur le Préfet, Monsieur Salomon, du député Monsieur Feignier et de notre évêque Monseigneur Jean-Marc Mica. Alors c'était pour le Radio Présence l'occasion eh bien, de se mobiliser là encore et d'aller un petit peu à la rencontre. Je vous propose d'écouter tout de suite Amélie Corpé qui est animatrice nationale pour la grande exclusion errance au Secours catholique. Elle gère tous les lieux d'accueil de jour du Secours catholique partout en France. Elle nous explique ce qui a changé dans cette escale qui s'appelait autrefois l'escale le lieu Jean Rodin du nom du fondateur du Secours catholique. Qu'est-ce que l'escale est aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé et quelle est sa vocation ? Elle nous dit tout cela.
Alors aujourd'hui, on est dans un lieu qui est toujours un lieu du Secours catholique. On va y retrouver des bénévoles. Enfin, moi, j'ai croisé depuis ce matin beaucoup de bénévoles. Je trouve qu'on est dans un lieu qui est beau et ça, c'est très, très important pour nous de pouvoir mettre à disposition des lieux qui sont à la hauteur des personnes qu'on rencontre. En fait, souvent, les personnes qui franchissent notre porte, elles sont un peu cassées, elles sont un peu déprimées, elles sont exclues, isolées. Et nous, en fait, on essaye, en tout cas, d'être dans des lieux qui sont à taille humaine, un peu comme à la maison, où on accueille, on dit bonjour, où c'est propre, où le mobilier a été choisi pour être assorti, pour être pratique, pour pouvoir vraiment accueillir correctement les personnes qu'on rencontre.
Dans quel état était ce lieu avant ? Enfin, et puis sur quelles attentes, quels besoins exprimés des personnes reçues ici, vous avez construit ce projet ? Parce qu'au fond, quand on parle des pauvres, c'est la spécialité du Secours catholique, enfin, il y a beaucoup d'associations qui sont engagées au service des pauvres, mais quand on parle des pauvres, ça peut être beaucoup de pauvreté derrière. Alors, quelles sont les personnes et les pauvretés qui sont accueillies et prises en charge ici ?
Alors, en fait, d'abord, c'est un projet qui a été travaillé avec les personnes qui fréquentent le site. Et ça, c'est très, très important pour nous. C'est pas le Secours catholique qui détient la vérité pour les personnes qu'elle accueille. C'est vraiment les personnes qui fréquentent le lieu. Et par exemple, le bistrot, la partie qui reçoit les personnes pour un café étaient à l'avant du bâtiment et pas à l'arrière. Donc quand on a un chien ou quand on a envie de fumer une cigarette, bah, c'est pas pratique. Voilà, il a fallu repenser.
Ce sont les personnes qui vous ont dit, bah, moi quand j'arrive, voilà, j'aimerais bien que ce soit plutôt comme ça.
Exactement, on a fait des ateliers, on a fait des consultations, on a fait des travaux avec les gens, on a fait des allées, des retours. Il y a des moments où on s'est un petit peu planté, puis ça a pris un peu de retard, mais c'est fait partie de la vie de la maison. Et au fur et à mesure du projet, en fait, tout le temps, les personnes ont été impliquées parce que c'est leur maison, enfin, c'est leur lieu d'escale. Donc du coup, c'était important. C'est aussi pour ça qu'il y a des activités qui étaient déjà présentes avant, comme le bistrot, la boutique, l'apprentissage du français. Et puis, il y a aussi des choses qui se développent. Par exemple, ils ne sont pas encore complètement installés, mais il va y avoir les vétérinaires, parce que ça, c'est une question importante pour les personnes de la rue, de pouvoir...
Ou un chien.
Oui. Bah oui, parce que mine de rien, avoir son chien, c'est très important quand on est à la rue. Et donc, pouvoir le faire soigner, ça coûte très, très cher. Enfin, ceux qui possèdent des animaux le savent. Et donc, du coup, bah, c'est, voilà, ça fait partie des choses qui ont été réfléchies comme ça, avec les personnes au fur et à mesure. Et on n'a pas fini. C'est-à-dire qu'en fait, le lieu, il va vivre, il va évoluer. Il y a peut-être une salle qui servait à faire quelque chose qui va changer d'utilisation dans un an ou deux. Ce sera la vie du secours, en fait. Et c'est vraiment en fonction de l'évolution des personnes qu'on accueille qu'on va pouvoir adapter la proposition.
Donc, je ne sais pas si on peut faire la liste de tout ce qui, de tout ce qu'on trouve ici dans cette escale, mais enfin, donc, le bistrot, c'est, d'abord, c'est accueil. L'accueil, c'est déjà ça la première chose, c'est d'avoir des personnes qui sont là, présentes, pour, derrière la porte, pour accueillir avec le sourire, écouter ce que les personnes ont à dire. Le bistrot, le vétérinaire, je crois qu'il est question aussi de cours de français. Enfin, il y a des choses qui existaient, des choses qui démarrent maintenant avec cette, ce bâtiment rénové. Et puis, peut-être, donc, on le comprend, des choses qui vont voir le jour. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu qu'est-ce qu'on peut faire ici?
Alors ici en fait donc on accueille de façon inconditionnelle, ça veut dire que la personne qui va accueillir, en fait on ne sait pas ce qu'elle recherche. Et donc c'est important que notre accueil il soit multi-activité. Donc suivant les créneaux, vous allez avoir la boutique qui va être ouverte, vous allez pouvoir prendre un café au bistrot, avoir un soutien sur du microcrédit, avoir un entretien peut-être pour avoir une aide financière si vous galérez un peu sur la fin du mois, des cours de français, mais aussi un soutien administratif. Et puis, il va y avoir des activités culturelles, c'est-à-dire qu'en fait, régulièrement, on va proposer des repas partagés, on va proposer des sorties, on va... Et en fait, tout s'adapte. Il y a un cabinet médical, c'est important aussi pour la santé des personnes.
L'accès aux soins, voilà. Et à l'hygiène aussi, hein, la possibilité de se doucher, je crois.
Voilà, c'est ça. Il y a les douches pour les personnes qui sont à la rue. Donc, en fait, tout ça, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir, de pouvoir répondre aux besoins des personnes en fonction aussi de nos capacités en bénévoles, puisque, mine de rien, ça demande beaucoup d'investissement de la part des bénévoles. Et donc, c'est un lieu qui vit toute la semaine, donc avec à chaque fois des activités différentes. Donc, il faut quelquefois un peu se renseigner, mais de toute façon, quand on arrive, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, si on est ouvert, vous serez accueilli.
Donc tous les jours, c'est ouvert, toute la journée, mais ça n'est pas un abri pour la nuit.
Non, il n'y a pas d'abri pour la nuit. C'est une autre façon de fonctionner. Nous, aujourd'hui, au Secours catholique, en tout cas sur la ville de Tarbes, on ne souhaite pas créer des lieux d'hébergement de nuit. En plus, là, les locaux, du coup, ne s'y prêtent pas si on veut faire les choses dignement et proprement. Donc, ça fait plutôt partie des plaidoyers qu'on va porter auprès de la préfecture ou auprès de la commune sur l'ouverture de lieux d'accueil pour la nuit pour les personnes.
Alors, dans votre discours de présentation, vous avez commencé par expliquer le public qui vient ici. Vous avez dit qu'il y avait d'abord des gens assez jeunes, hein, puisque je crois que la moyenne d'âge que vous avez mentionnée, c'est 40 ans. C'est quand même très jeune. Et vous avez parlé de femmes et d'enfants aussi, de plus en plus nombreux. Vous pouvez nous dire un petit peu, ici à Tarbes, et peut-être à l'échelle nationale, quelles sont les personnes qui ont des besoins?
Alors, de façon globale, à Tarbes comme au niveau national, en fait, on voit que la proportion dans les personnes à la rue, la proportion de femmes augmente et la proportion de femmes avec enfants. Et ça, c'est une vraie problématique parce que ça veut dire qu'on est en train d'accepter plus ou moins dans notre société que des enfants puissent aller à l'école en dormant dans la rue le soir. Et ça, nous, ça nous révolte, en tout cas au Secours catholique. Dans nos lieux d'accueil, comme on est en accueil inconditionnel, on va accueillir tout le monde. Donc on a aussi bien des enfants qui viennent que des femmes, que des couples, que des personnes isolées. C'est un peu une bénédiction d'arriver à avoir tous ces publics variés qui s'entendent, qui discutent ensemble. Alors quelquefois il y a un peu de tension, mais en général ça se régule plutôt pas mal. Il y a un petit miracle tous les jours qui se produit au Secours catholique sur le fait que en fait, on est très intergénérationnel, on a un peu tous les profils. Il est vrai qu'aujourd'hui, en fait, le public qu'on rencontre est assez jeune.
40 ans, c'est très jeune. Ça a changé au cours des 10 dernières années.
Alors, ça évolue aussi parce qu'on a plus de familles, donc forcément, ça fait un peu baisser la moyenne. On a aussi des personnes migrantes qui sont empêchées de travailler, par exemple, et qui, du coup, parce qu'elles n'ont pas de titre de séjour, et qui, du coup, vont venir nous voir, parce que quand on ne peut pas subvenir à ses propres besoins, on est obligé d'aller demander de l'aide aux structures. Mais on va aussi avoir des personnes qui ont des petites retraites, ou des personnes qui arrivent à peu près à boucler les fins de mois, mais qui sont très isolées, qui ont besoin en fait d'aller rencontrer du monde. On rencontre des personnes qui sont à la rue, mais d'autres aussi qui vont être en logement, mais qui n'ont pas les moyens de payer la facture d'eau, donc ils vont venir prendre leur douche ici. Enfin, c'est un public très très varié, et en même temps c'est aussi ça qui fait la richesse de l'accueil.
Voilà, alors on va terminer quand même en disant que si tout cela peut fonctionner et si cette escale existe aujourd'hui avec cette rénovation et ce bâtiment qui est beau, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est quand même grâce aux bénévoles aussi, puisque j'imagine que pour ouvrir tous les jours et proposer tous ces soutiens, eh bien il faut de très nombreux bénévoles.
Oui, on a besoin des bénévoles. Le Secours catholique n'est pas une association de salariés, c'est une association de bénévoles. Il y en a 300 sur la délégation, il y en a au moins une cinquantaine qui œuvrent ici. Et c'est hyper important de donner du temps, de contribuer en fait à cet accueil. D'abord parce qu'on y gagne, en fait on s'enrichit énormément dans notre bénévolat.
C'est ça la révolution fraternelle dont vous parlez.
Bien sûr, ça c'est génial. En fait vraiment, moi, il y a plein de bénévoles qui me disent « mais jamais de la vie j'aurais discuté avec cette personne ». En fait, on se serait croisés dans la rue et on n'aurait à peine décoché un sourire, alors que là on est devenus amis, et ça c'est hyper important. Et des structures comme les nôtres, elles fonctionnent parce qu'il y a des bénévoles qui viennent nous soutenir et parce qu'il y a des donateurs, parce qu'on ne peut pas toujours être bénévole dans un moment de sa vie, c'est pas toujours possible. Et donc il y a des donateurs qui eux vont nous soutenir plutôt financièrement, des bénévoles qui viennent donner un coup de main, même une heure, deux heures par semaine, deux heures par mois. Enfin, on accepte les gens comme ils sont et en fonction de leur dispo. Et c'est vraiment important de vivre avec nous cette révolution fraternelle.
Merci beaucoup Amélie Corpet.
Je vous en prie, bonne journée.
Voilà donc Amélie Corpet qui nous présentait cette escale, hein, cet accueil de jour fraternel complètement rénové au 87 rue Massé à Tarbes. C'est l'accueil de jour du Secours catholique, et on peut quand même noter que si cette escale a pu être entièrement rénovée, eh bien c'est parce que le Secours catholique a pu porter ce projet en partie financé par la direction départementale emploi, travail, solidarité et protection des populations, par le conseil départemental des Hautes-Pyrénées et par la mairie de Tarbes. Vous voyez que l'objectif c'est du beau, du beau, du beau et encore du beau pour les pauvres. Et ça, c'est beau. Voilà.
Et la suite de votre reportage, ce sera dans un instant. Hein. On retournera à Tarbes donc, pour visiter l'escale.
Oui, toujours au même endroit. Vous entendrez le témoignage de plusieurs bénévoles.
Mais pour le moment, place à l'actualité régionale avec le journal présenté par Éric Leclerc. À tout de suite dans Canne Rose.
Bonjour, samedi dernier était présenté le projet de la future maison de santé d'Auch. Celle-ci sera située sur l'ancien site de la clinique de Gascogne, 55 avenue Sambre et Meuse. Le projet prévoit une répartition fonctionnelle des espaces de 1218 m² en rez-de-chaussée pour les commerces paramédicaux tels que le laboratoire, la radiologie, un espace de restauration, 2300 m² pour la maison de santé proprement dite, répartie en deux étages, et 580 m² pour des logements à destination des internes et étudiants en santé. Le numérique à l'honneur à Toulouse avec la mêlée numérique. Intelligence artificielle, souveraineté, cybersécurité sont au menu des journées de cette mêlée jusqu'à samedi. Depuis 25 ans, la mêlée numérique connecte et fait briller l'écosystème du numérique et de l'innovation d'Occitanie. Chaque année, elle rassemble à Toulouse les forces vives du digital, entrepreneurs, experts, chercheurs, décideurs, étudiants. Conférences, ateliers, démos, networking, un concentré d'intelligence collective au service des grandes transitions numériques, économiques et sociétales. Parmi les invités de l'édition 2025, Benoît Tabaka, secrétaire général Google France, Constance Nebula, présidente d'Open Data France, et Gilles Babinet, entrepreneur et président de la mission Café IA. À peine l'été terminé, l'hiver montre le bout de son nez avec les dates d'ouverture des stations de ski dans les Pyrénées qui s'annoncent. Notez dans vos agendas l'ouverture de la station de Peyragudes le 6 décembre. Il en sera de même pour Cauterets, Axe, Trois Domaines, Grand Tourmalet. Mais avant cela, Luzardiden prévoit d'ouvrir son domaine le 29 novembre. L'agglomération Grand Auch, cœur de Gascogne, met à disposition du public un libre service de vélos électriques sur la ville d'Auch. 50 vélos électriques gérés par l'entreprise EcoVélo et répartis sur 10 stations peuvent être utilisés librement pour se déplacer en centre-ville. Le système est accessible selon plusieurs modalités. La ville de Foix distinguée au concours Villes et Villages fleuris organisé par le Conseil départemental de l'Ariège. Foix a été distinguée dans deux catégories. Le prix hors concours dans la catégorie des communes de plus de 3500 habitants. Une reconnaissance qui salue la constance et l'exemplarité du travail mené depuis plusieurs années par les services municipaux pour embellir la ville et favoriser la biodiversité. Et une récompense pour les jardins partagés créés et animés par l'association Casta. Travaux de rénovation de la galerie du Château d'Eau à Toulouse. Ce projet d'aménagement vise à favoriser l'accès de tous les publics. Le chantier prévoit ainsi un agrandissement du lieu avec l'ouverture d'une arche du Pont Neuf. Les bureaux et services y seront déménagés afin de développer les surfaces d'exposition et de circulation du public. Le parcours de visite sera également redéfini sur l'ensemble du site avec un traitement de l'accessibilité dans tous les espaces et un embellissement du jardin. La galerie du Château d'Eau doit rouvrir le 22 novembre prochain.
Merci Eric Leclerc. Retour de l'info sur notre antenne dans moins d'une demi-heure avec le journal national et international. Vous avez noté que les stations des dates des ouvertures des stations de ski en Drôme.
Oui, alors j'ai noté.
Bon. On vous retrouve dans un instant pour la suite de votre reportage.
Tant qu'on peut faire de la luge, moi vous savez.
Voilà. Il manque juste un peu de neige. Mais
oui, ça va venir. Patience. Laissez-nous vivre l'automne.
Exactement.
Quand même.
À tout de suite.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non!
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Radio Présence sur le COS 106.5.
Avec vous, Anne-Rose Jankovic, on retourne à l'escale, à cet accueil de jour du Secours catholique à Tarbes.
Exactement, qui a été, vous l'avez compris, complètement rénové. Et au cours de cette rénovation, de nouveaux services ont été lancés. Alors, qui dit de services de plus en plus nombreux, dit aussi une équipe qui doit tourner, pour faire tourner la boutique précisément. Donc, il faut des bénévoles. Et voilà, ce 19 septembre, à l'occasion, de l'inauguration de cette escale du Secours catholique, j'ai rencontré plusieurs bénévoles. Ce sont des personnes qui donnent tout simplement de leur temps pour divers services proposés dans cette escale. Je vous propose d'écouter d'abord Pauline, qui est bénévole d'origine camerounaise, engagée depuis 10 ans. Et puis vous entendrez Robert. Et ensuite vous entendrez une petite surprise qui fera sans doute sourire les auditeurs de Tarbes qui reconnaîtront sa voix.
Bon, alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites ici? Puisqu'on m'a dit que les foulards bleus étaient des bénévoles, mais il y a plein de choses à faire en tant que bénévole ici. Qu'est-ce que vous faites, Pauline?
Je suis ici au Secours catholique, ça fait 10 ans. Et je travaille à la boutique solidaire.
C'est-à-dire les vêtements?
Les vêtements, c'est-à-dire les vêtements. Il y a deux divisions à la boutique. Il y a le tri. Le tri, c'est la salle d'ici, derrière moi, et la boutique, c'est là-bas.
Donc ça veut dire que des personnes apportent des vêtements qu'ils veulent donner et vous faites le tri?
Oui.
Et tout le monde peut venir apporter des vêtements ici au Secours catholique?
Ah, tout le monde, la porte est ouverte. C'est écrit à l'entrée le jour de donation.
Alors je vois sur l'affiche, nous collectons les dons le lundi de 9h à 11h. Il faut apporter des vêtements quand même en bon état.
En bon état. Pourquoi nous faisons le tri? Parce qu'on ne veut pas mettre du n'importe quoi dans notre boutique. Donc, quand c'est de glace, je peux utiliser le mot, on met dans le sac poubelle. Parce que c'est pas jeté, le camion vient prendre pour aller donner là où il faut faire les trucs.
Et alors cette boutique ensuite, vous mettez les vêtements que vous avez triés, qui sont propres, en bon état, qui sont présentables, et ils sont à la vente, et n'importe qui peut venir acheter dans cette boutique?
Oui, et ce que je peux vous encourager, il y a la dernière semaine du mois, tout à 1 euro.
Tous les mois?
Tous les mois, même si c'est neuf, parce qu'il y a aussi pas toujours les vieux, hein. Il y a les derniers stocks. Ils viennent nous donner. Vous trouvez, même nous qui travaillons là, vous nous voyez bien habillés, parce qu'on connaît aussi, chacun aime son choix.
Alors maintenant que ce lieu d'accueil a été rénové et qu'il a même changé de nom, ce n'est plus l'accueil Jean Rodin, même si on garde en mémoire la figure de Jean Rodin, bien sûr, ce lieu qui s'appelle maintenant l'Escale, tout propre, tout rénové, tout neuf, comment vous le trouvez-vous?
Oh, pour moi, je vois que vraiment le Secours catholique est bien accueillant. Il accueille les donateurs, il accueille les acheteurs. Et ils sont gentils. Nous sommes gentils avec tout le monde ici. Jean Rodin, même si on ne le voit pas, il vit toujours avec nous ici.
Alors maintenant, ma dernière question, Pauline, c'est pour savoir ce qui vous touche. Puisque là, je sens que vous êtes attachée à Jean Rodin. Mais qu'est-ce qui vous touche dans la mission du Secours catholique et dans votre mission à vous comme bénévole du Secours catholique? Pourquoi ça fait 10 ans que vous faites ça? Pourquoi vous aimez faire ça?
Ce qui me touche ici, c'est que les gens qui ont créé Secours catholique partout, comme les Jean Rodin, sont partis. Mais ils sont partis comme ça, mais ils sont rentrés rejoindre notre Seigneur. Moi, je ne l'ai pas connu, mais je vois sa tombe. À la cité Saint-Pierre. Parce que même là-bas, j'ai fait deux fois le bénévolat. Un mois, et ma chambre, ma clé, tout est là. Ça me touche actuellement que beaucoup de gens ne veulent plus faire du bénévolat.
Ah bah alors j'ai encore une dernière question, puisque vous me tendez la perche. Monsieur le préfet, Monsieur Salomon, a parlé justement de l'importance du bénévolat. Alors c'est peut-être l'occasion là de lancer un appel, parce qu'on voit qu'il y a quand même une bonne équipe ici à Tarbes, mais il y a toujours besoin d'aide. Et puis surtout, ça dit quelque chose de la société, de ce qu'on a envie de transformer dans la société quand on s'engage pour faire du bénévolat.
Très bien. Ce qu'il vient de dire le monsieur, c'est normal, c'est bien, c'est bien. Je peux répéter, moi je suis camerounaise, je suis étrangère. Donc, dès que je suis entrée en France, j'ai commencé à faire du bénévolat. Parce qu'il y a d'autres gens qui nous ont aidés. Il faut que nous aussi, on mette la main pour aider les autres, pour que la société vive. Sinon, nous sommes comme le chêne. Maillon, 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 maillon. Et voilà, voilà.
Eh bien, merci, merci, Pauline.
Merci à vous aussi, moi c'est Pauline, merci. Et vous, c'est qui là?
Anne-Rose, pour Radio Présence.
Anne-Rose, bonne journée, bonne continuation.
Alors, je suis avec Robert. Bonjour, Robert.
Oui, bonjour.
Vous êtes bénévole au Secours catholique?
Oui, tout à fait, bénévole depuis 8 ans maintenant sur l'apprentissage du français langue étrangère.
Alors, qui vient à l'atelier que vous proposez?
Eh bien, disons toutes des personnes de nationalité étrangère, de tous horizons. Si on parle des nationalités, eh bien, ça va de quelques Pakistanais, d'Africains, souvent de pays francophones, de plus en plus d'anciens pays de l'Est, Géorgie, Albanie. Alors, quelques Ukrainiens, mais il y a des Ukrainiens surtout qui sont pris en charge sur Lourdes, parce qu'il y a un dispositif particulier pour eux. Voilà, alors c'est des personnes de tous niveaux. Certains n'ont pas été du tout scolarisés dans le pays d'origine. Voilà, et ça...
Donc ils partent de zéro, là?
Ils partent de zéro, alors ils ne sont pas habitués à un quelconque apprentissage. Alors ça, c'est la difficulté. Ils connaissent, ils ne savent quelquefois, de plus bas niveau, ils ne savent ni lire ni écrire, même dans leur langue d'origine. Voilà. Et puis, question de niveau, ça va jusqu'à des personnes qui ont un niveau universitaire, l'équivalent d'un bac avec 5 années d'université. On a par exemple une personne qui est architecte, une autre personne qui a quitté une cinquième année universitaire d'études de médecine. Donc voilà, dans des profils très variés.
Donc ce sont des personnes qui arrivent, qui sont un peu cassées par la vie et qui doivent en quelque sorte repartir un peu à zéro, en tous les cas dans l'apprentissage, se remettre sur un banc d'école en quelque sorte et puis faire l'élève, quoi. Oui, donc c'est quand même une démarche qui est déjà difficile.
Oui, alors ce sont des personnes qui partent de situations très critiques, hein, très précaires. Alors le plus souvent, mais ce n'est pas forcément la majorité, ce sont des personnes qui quittent la guerre, voilà, donc qui ont un profil qui peut leur permettre d'avoir le statut de demandeur d'asile, donc réfugié. Après, d'autres, on en parle beaucoup moins. Alors, ils fuient la guerre, mais d'autres fuient carrément la corruption.
Et ils vous racontent les cours sont des occasions de se livrer ?
Non, ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas lors des premiers cours. On ne le sait que lorsque on a mis les gens en confiance, qu'on les a depuis au moins un mois, deux mois en français. Ils commencent à savoir un peu s'exprimer. Et on se garde de leur poser des questions personnelles dès le début. Ça, on ne le sait, je dirais en moyenne, qu'au-delà de 3 mois, et quand ils commencent à savoir s'exprimer.
Dans un cours, vous avez combien de personnes ? Et ça peut aller de quel âge à quel âge, puisqu'on entend que le public est différent. Donc, vous pouvez avoir des jeunes et puis des personnes beaucoup plus âgées.
Pour ce qui est des effectifs dans les cours, alors souvent, on en inscrit 10 à 12 dans un groupe. On en a sur 10-12, bon, l'assiduité va jusqu'à moyenne 5-6 personnes. Voilà. Donc potentiellement, ben, là on est une équipe de 8 bénévoles. On va dire qu'au mois de septembre, on a 8, on a potentiellement 60 personnes inscrites et on a 40 personnes présentes assidûment.
Quelle est leur motivation en fait ? Quel est leur besoin premier pour ? Parce que en fait, dans toutes les nationalités que vous nous avez citées, ils sont pas seuls à parler leur langue maternelle ici. Ils ont envie d'apprendre le français, mais qu'est-ce qui les motive à faire cet effort-là ?
Ah, alors le premier motif qu'ils invoquent, c'est je veux apprendre le français parce que je veux m'insérer, je veux m'intégrer dans la société française. Voilà. Bon, ça, c'est le premier motif. Après, forcément, qu'ils demandent du français, parce que leur demande, c'est souvent une aide financière, c'est un logement, c'est des démarches, c'est un soutien pour des problèmes médicaux, voilà. Et là, ils prennent conscience qu'il faut qu'ils aient un minimum de français, voilà, pour pouvoir parler de leur situation. Auprès d'un médecin, auprès des services de l'État, la préfecture.
Au moins pouvoir se débrouyer, dire un petit voilà, peu, au moins leur, un peu leur histoire.
Voilà, donc c'est surtout pour savoir se débrouiller par rapport à tous les services dont ils auront besoin en France.
Donc toute l'année et toutes les semaines durant toute l'année, il y a ici des cours de français pour ces personnes-là.
Oui, voilà. Alors, l'escale et les locaux sont ouverts, enfin sont accessibles, on va dire 5 jours par semaine, et les cours sont étalés sur 4 jours, du lundi au jeudi après-midi. Voilà.
Et alors, ma dernière question, Robert, elle est un peu plus personnelle peut-être, enfin sûrement. Qu'est-ce qui vous a donné envie à vous d'être bénévole au Secours catholique ? Pourquoi vous avez choisi d'être bénévole et d'être bénévole ici pour faire ça ?
Alors, la première des choses qui m'a amené à être bénévole, ça veut dire que j'étais retraité. Bon, je suis retraité depuis 1er janvier 2017. Donc, ma carrière professionnelle m'a amené dans diverses régions, divers départements. Il se trouve que je suis tarbé de naissance, mon épouse également. Et donc, naturellement, on est revenu dans le sud-ouest pour la retraite. Voilà. Et voilà la première raison. Deuxième raison par rapport au bénévolat, mon épouse était déjà bénévole au Secours catholique à Poitiers. J'ai été professionnellement installé à Poitiers. Moi, j'ai fait un peu le tour de ce que je pouvais donner comme service. Donc, je me suis tourné vers le Secours catholique et j'ai commencé à écarter certains services. je le dis, distribution alimentaire ne m'intéressait pas parce que ça existe dans beaucoup d'organismes. Voilà.
Et... Vous vouliez un service qui soit un peu spécifique.
Oui, oui, voilà, je voulais répondre à un besoin particulier. Donc, le français, le besoin de français, le français pratique, vraiment pour s'intégrer, me paraissait important. Donc, je me suis naturellement orienté vers cette activité. Voilà.
Vous y trouvez beaucoup de joie, j'imagine. Est-ce que vous y trouvez de l'espérance? Vous savez qu'on vit une année de l'espérance dans l'Église catholique. C'est le jubilé de l'espérance. Est-ce que dans votre mission en tant que bénévole, malgré tout, face à des publics qui sont dans une grande souffrance, est-ce que vous trouvez quand même de l'espérance?
Ah ben oui, tout à fait. Moi, je pense que le mot essentiel et qui fait qu'on est au Secours catholique et chrétien, c'est un engagement chrétien aussi, c'est l'espérance. Et on donne du français ou on donne d'autres services, mais c'est aussi redonner, aider ces personnes-là à rebondir. À rebondir, parce que si on ne les aide pas, on retombe dans un certain isolement. Et l'isolement crée de la détresse personnelle. Donc on est là, on donne des cours de français, mais ils viennent aussi parce qu'ils se sentent bien avec nous. On les accompagne. Et moi, la plus grande, belle récompense, c'est quand on me dit, ou on dit à mes collègues, ah ben on n'était pas là depuis un mois, mais on revient vous voir parce que vous êtes gentil.
Merci beaucoup, Robert. Merci pour votre témoignage, votre sourire, et puis bravo pour votre engagement. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
Sœur Marie, sœur de Saint-Fray. Bonjour ma sœur.
Bonjour Anne-Rose.
Vous aussi, vous êtes bénévole ici à l'escale du Secours catholique. Et vous tenez, roulement de tambour, le bistrot.
Pour le moment, je tiens le bistrot. Oh, il y a plus de 20 ans, j'ai fait le tour dans tous les services, mais je termine au bistrot, au bar, quoi. Voilà.
Et alors, vous êtes là quand, quel jour, à quelle heure?
Oh, j'ai diminué parce que maintenant, j'ai eu des problèmes de santé. Maintenant, je viens plus qu'une fois ou deux par semaine, le lundi matin et le vendredi après-midi.
Et vous aimez faire ça?
J'aime beaucoup, surtout, la relation qui existe avec ce qu'on appelle nos clients... régulier, quoi. On a des personnes, il y a des personnes qui viennent au Secours catholique chercher non seulement à boire ou à manger, mais chercher surtout une relation, je crois. Et on crée avec eux vraiment des liens, je ne dis pas d'amitié, mais des liens auxquels on tient beaucoup. Et ils reviennent, voilà, ils aiment bien passer un moment avec nous et échanger avec nous.
Dans les discours qu'on a entendus là, on a compris qu'en fait, souvent, les gens viennent ici. Alors, ils ont un besoin concret, matériel, c'est vrai, mais ils ont un besoin d'écoute.
Oui, ils ont besoin d'écoute. Et il y en a qui viennent passer des heures pour rien. Il y en a qui aiment, parfois, il y en a qui aiment jouer, ça, c'est vrai. Mais ils recherchent la relation, c'est évident. Et je suis émerveillée. Par exemple, moi qui suis une sœur, on reçoit beaucoup de personnes d'autres religions, de musulmans, beaucoup, beaucoup. Ces anciens ouvriers qui ont passé leur vie à travailler ici, qui ne retournent pas ni en Algérie ni au Maroc, et qui sont malades, qui commencent vraiment à avoir une santé éprouvée, et qui viennent ici pour se retrouver, pour nous retrouver, et qui créent des liens. Et ces liens, vraiment, c'est fort. Et... Je vois par exemple un malade, quand il va, un de ses anciens ouvriers musulmans, quand il est à l'hôpital et qu'on lui demande « Mais quelle est la personne de référence pour vous ?» Il répond « Sœur Marie du Secours catholique ». Et quand je vais le voir à l'hôpital, il me donne sa carte de banque, il me dit son numéro « Va me chercher 30 euros à la banque, fais-moi ceci ». Il m'est même arrivé pour un qui s'était cassé la jambe « Tu veux pas aller essayer de me trouver de la viande halal ?»« Bon, ben, je vais te trouver de la viande halal ». On fait un petit peu de tout. Voilà, ce sont des vraies relations.
Vous savez ce que je trouve beau, là, en vous écoutant, Sœur Marie, c'est que vous êtes donc religieuse de la congrégation des Sœurs de Saint-Fray, Notre-Dame des Douleurs. Donc, c'est une congrégation qui est née ici, à Tarbes, à quelques pas de là où nous nous trouvons. Et je trouve, dans tout ce que vous me dites, de ce que vous vivez ici, à l'escale du Secours catholique, finalement, pleinement la vocation de votre congrégation et de ce que vous vivez dans les pattes de vos sœurs, avec vos sœurs.
C'était surtout la vocation de Marie Saint-Fray qui, tout au début... a accueilli tous les besoins qu'elle rencontrait. On raconte même que Marie Saint-Fray et ses premières compagnes allaient à la porte de la prison quand elles savaient que quelqu'un allait sortir pour les accueillir et les amener à Saint-Fray. Marie Saint-Fray avait un cœur ouvert à toutes les souffrances. Je crois qu'en m'envoyant ici, mes supérieurs ont dit « Elle continue aussi la mission de la congrégation, c'est absolument évident ».
Voilà, allez, un dernier mot, juste un petit côté pratique. Au bistrot de l'escale, tout le monde peut venir et on peut trouver à boire et un petit peu à manger.
On accueille tout le monde, bien entendu, absolument.
Donc on imagine qu'il y a des prix qui sont adaptés. Alors, aux petits...
Par exemple, au bar, on propose à boire à tout le monde, gratuitement, bien sûr, et on vend des repas froids, bien sûr. On les vend pour 60 centimes. On a augmenté, c'était 50 centimes. Maintenant, c'est 60. Pourquoi ? Parce que les personnes, en achetant leur repas pour 60 centimes, on ne leur donne pas. Ils l'achètent. C'est leur bien qu'ils achètent, voyez. Maintenant, évidemment, la plupart des personnes qui n'ont pas même 60 centimes, ce qui est beau, c'est que c'est d'autres, parfois, qui sortent 60 centimes pour ceux qui ne les ont pas. Mais évidemment, on leur donne, absolument, c'est sûr. Mais aussi, on veut donner aux gens de l'acheter pour ne pas qu'ils reçoivent, mais qu'ils payent ce qui manque.
Derrière, il y a la question de la dignité, tout simplement.
Voilà. Et l'hiver, pendant le plan hivernal, on fait les repas chauds le dimanche. On fait venir des repas d'une cuisine externe. Ce sont des très bons repas que l'on vend aussi pour ceux qui peuvent l'acheter à 1 euro le dimanche. Et ils viennent passer l'après-midi.
Le bistrot est ouvert tous les jours, du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
En ce moment, il n'est ouvert que le lundi matin et le vendredi après-midi, comme tous les services, parce que nous manquons de bénévoles.
Voilà, et c'est très important.
Les autres... On va bientôt rouvrir le mercredi, mais vous savez, le fait d'avoir arrêté ici pendant 2 ans, il y avait des bénévoles qui n'ont pas continué, etc. Et nous manquons de bénévoles en ce moment.
Voilà, donc on lance un appel à bénévoles pour le Secours catholique, pour cette escale et notamment pour tenir le bistrot.
Exactement. On fait un appel aux bénévoles, bien entendu.
Merci, Sœur Marie.
Avec plaisir, Anne-Rose.
Présence à Saint-Bertrand de Comminges, 94.1.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence, il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
On va faire un bond en arrière dans cette chronique grâce à Laurent de l'Office de tourisme de Lourdes. Bonjour Laurent.
Bonjour Gilles.
Vous nous amenez au 5e siècle, au moment où Lourdes était attaquée par des envahisseurs.
Oui, exactement. Alors bon, on n'a pas de traces concrètes de tout ça, mais il est fort à parier effectivement que Lourdes, comme beaucoup de zones en fait de France, est connue ces invasions barbares et connue en fait ces temps troublés. Voilà. Donc on replonge dans un épisode en fait qui est moins connu de l'histoire de Lourdes, en fait, scène des grandes migrations. Celles qu'on appelait les invasions barbares à la fin de ce qu'on qualifie la période de l'Antiquité vers la fin du 4e siècle et le 5e siècle, en fait, voilà.
Alors Lourdes, qui était à l'époque fortifiée, alors ce ne sont pas les fortifications qu'on peut voir aujourd'hui, des fortifications plutôt en bois, un endroit à la fois de refuge et de protection pour les Lourdais.
Oui, on peut imaginer qu'il y avait ce fameux oppidum romain qui devait être là sur au niveau du promontoire en fait où est installé le château fort aujourd'hui. Et déjà il y avait une présence effectivement et des habitants. Et il y a fort à parier effectivement que dans tous ces mouvements de peuple en fait qui étaient les Vandales, les Suèves, les Alains, les Burgondes, les Francs, Goths et autres Visigoths, Lourdes est forcément connu en fait des temps en fait un peu troublés et certainement que oui ils ont connu des périodes en fait de combats, peut-être de pillages, voilà, il y a fort à parier puisque on va dire ces parties défensives n'ont pas été installées par hasard en fait aussi, donc c'est bien qu'il y avait des craintes et qu'il y avait des événements qui faisaient que
voilà, c'était utile, hein, on imagine. Tout ça nous amène à parler des cagots. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner la définition pour les auditeurs qui nous habitent
Alors, les cagots, c'est un vaste sujet, on ne va pas développer ça aujourd'hui, mais effectivement, il y a un lien. Alors, il faut noter que quand on parle des invasions barbares, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu à la fois des attaques, mais aussi des cohabitations pacifiques. Ça veut dire que, dans la durée, certaines peuplades aussi, à certains endroits, sont restées et se sont installées. Bon. Au niveau des cagots, une des théories, mais c'est pas la seule, il y en a plusieurs, puisqu'on recherche un peu les origines des cagots, serait que les cagots seraient descendants des Goths ou des Visigoths, puisqu'en fait, cagots, ça pourrait vouloir dire chien de Goths. Donc ça pourrait expliquer pourquoi ces gens-là ont été ostracisés. C'est-à-dire que les Bigourdans et les gens des Pyrénées qui auraient vécu ces invasions, qui les auraient subis, on se serait un peu vengé en retour en ostracisant ce peuple et en les mettant un petit peu à l'amende et un peu hors de la société. Ça peut être une explication. Après, il y a des écrits, mais là encore, il faut, moi je suis pas historien, il faut regarder. Je pense peut-être plutôt à des gens nordiques. Ça pourrait accréditer effectivement la thèse de ces peuples-là du Nord qui seraient venus en Bigorre. Bon, voilà, mais il y a d'autres théories, donc c'est une des explications plausible ou possible.
Alors, ces cagots, où est-ce qu'ils résidaient à Lourdes? Est-ce qu'ils avaient un lieu de résidence particulier?
Bah, ils résidaient déjà en dehors de la ville, plutôt dans le quartier du Lapaca, donc le long du ruisseau de Lapaca. Ils avaient une église, en fait, en bas qui n'existe plus, qui a été détruite. Et effectivement, on avait des communautés de cagots dans les différentes petites villes ou dans les villages. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient vraiment en marge de la société, donc ils pouvaient se marier qu'entre eux. Ils n'avaient droit d'avoir des professions, en fait, que en plein air, donc plutôt couvreurs, charpentiers, menuisiers, enfin des choses voilà qui n'étaient pas forcément en contact avec le public. Pour entrer en ville, dans les ruelles, dans les églises, ils avaient souvent des portes qui leur étaient destinées, pas portes principales, mais portes latérales plus petites, voilà. Et ils n'avaient pas tous les droits, c'est-à-dire qu'au niveau juridique, par exemple, une voix de cagot valait pas une voix d'une personne de la ville. Je crois qu'il fallait cette voix de cagot pour équivaloir à une voix de personne de la ville. Donc voilà, il y avait beaucoup d'interdits, beaucoup de contraintes. C'est une période qui n'était pas facile pour eux.
Voilà, nous étions autour du 5e siècle avec Laurent de l'Office de Tourisme de Lourdes. Vous aviez intitulé cette chronique « Lourdes entre chaos et résilience ».
Voilà, là on a fait un pont entre le 5e siècle et le Moyen-Âge.
Merci Laurent, à très vite pour une nouvelle chronique balade en pays de Lourdes.
Merci Gilles, à bientôt à Lourdes.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
Regard au fond du mien, et de l'amour qui me revient, des souvenirs qui pleurent en moi, mais on n'a plus le temps pour ça. Bien sûr que je n'étais pas tendre, je ne savais pas comment m'y prendre. Avec l'amour, avec l'enfance, je ne parlais que par silence. Est-ce qu'on a le père qu'on mérite? Est-ce qu'on mérite le père qu'on a? Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à son père d'être un homme? Les prières que l'on bâillonne, les promesses qu'il abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à un père d'être un homme? Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que tu pardonnes à ton père d'être un homme? Un homme qui te dira ma fille je t'aime, qui t'apprendra à faire de même, qui te tiendra encore la main quand tu voudras pleurer pour rien. Pour toutes les fois où j'étais là, quand tu avais besoin de moi, en te donnant ce que j'ai pu, ce que j'avais, en quoi j'ai cru. Est-ce qu'on a le père qu'on mérite? Est-ce qu'on mérite le père qu'on a? Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à son père d'être un homme? Les prières que l'on bâillonne, les promesses qu'il abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à un père d'être un homme? Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que tu pardonnes à ton père de n'être qu'un homme? Qu'un homme. Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à son père d'être un homme? Les prières que l'on bâillonne, les promesses qu'il abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne un père d'être un homme? Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que tu pardonnes à ton père de n'être qu'un homme?
Radio
Présence sur le plateau du Larzac, 106.5.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Les catholiques prient pour Gaza au moment où la France reconnaissait hier l'État de Palestine.